Après avoir introduit les hommes qui construisent la cathédrale, le financement, la dernière fois, sujet sur lequel je reviendrai parce qu'il y a matière à dire sur l'incidence sur la construction de la cathédrale de Chartres, je voudrais introduire aussi un peu dans un panorama d'histoire de l'art, et donc d'histoire, parce que faire de l'histoire de l'art, c'est faire de l'histoire, les origines et la montrer aussi que l'idée couramment admise que l'effondrement du monde romain laisserait un grand vide pendant plusieurs siècles avant que ça renoue timidement avec une espèce de sommet qui serait la Renaissance, la découverte de l'Antique. Tout ça est assez erroné, puisqu'en fait, déjà au moment des invasions dites barbares, il faut bien savoir qu'un certain nombre de barbares, parmi lesquels les Francs, qui nous concernent au premier chef, étaient romanisés, ils étaient même chrétiens. Et donc, cet effondrement du monde romain n'est pas tout à fait un effondrement, puisqu'il y a des éléments qui vont le rendre pérenne. D'abord, certains barbares sont de culture romaine, et puis surtout, il y a cette chose fondamentale qui est aussi à l'origine de nos cathédrales, c'est le christianisme. Et le christianisme va être l'un des vecteurs d'une forme de continuité de l'héritage romain, même si cet héritage va subir, si on faisait un graphique, on dessinerait des dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on s'en éloigne, où ce sont des influences barbares, des influences byzantines qui elles-mêmes sont en lien avec l'héritage romain, puisque Byzance, c'est l'Empire romain d'Orient qui va se maintenir jusqu'en 1453, avec la prise de Constantinople par les Turcs. Et il y a plusieurs tentatives politiques, je vais essayer d'en donner quelques-unes, pour rétablir, renouer avec l'héritage de la Rome antique. Alors déjà, le premier phénomène que j'ai mentionné, c'est-à-dire le surgissement de l'Église chrétienne, c'est vraiment le roc sur lequel, finalement, cet héritage romain va s'ancrer. Ça va être le facteur de pérennité qui va être repris par ce qu'on appelle aujourd'hui des hommes politiques, en l'occurrence des personnages politiques de premier plan, l'un des plus connus étant Charlemagne, qui veut vraiment fondre le pouvoir temporel qui est le sien avec le pouvoir spirituel chrétien, donc la Rome chrétienne. Cette légitimité va ressurgir à plusieurs occasions. Alors c'est vrai qu'il y a des moments plus sombres où on s'éloigne un petit peu de l'héritage, parce que ça suit d'ailleurs des désordres politiques, mais régulièrement, le pouvoir politique, celui de Charlemagne en est un bon exemple, mais celui aussi de, par exemple, Othon III, un des successeurs de Charlemagne, dont les sceaux porteront l'inscription « Renovatio Imperii Romani », c'est-à-dire « Rénovation de l'Empire romain », c'est une claire revendication de l'héritage romain, qui permet d'ailleurs, par le biais de la papauté, d'affirmer son pouvoir. Ça, ce sont quelques exemples du pouvoir politique à intervalles différemment espacés suivant les époques, mais ça va être, finalement, sur le long terme, ça va être relativement pérenne. Et puis, il y a aussi, largement par le biais du christianisme, sur le plan, je dirais, tout à fait culturel, ce maintien aussi de la romanité, qu'on va trouver chez les pères de l'Église, notamment Saint-Augustin, qui va avoir une filiation très rapidement dans les débuts de ce qui va devenir le Moyen-Âge. Il y a le fait aussi que le pape décide d'envoyer, par exemple, en Angleterre, pour une deuxième évangélisation, puisque la première évangélisation dont les invasions anglo-saxonnes effacent d'une certaine façon les effets de la première évangélisation. Donc on va envoyer des bénédictins, le pape va envoyer des bénédictins pour réévangéliser l'Angleterre et l'Irlande. Et ça va donner au 7e siècle, par exemple, une personnalité très importante comme Bède le Vénérable, qui est un moine dans une abbaye de Northumby, c'est-à-dire l'équivalent sur une carte. Vous partez d'Édimbourg et vous descendez jusqu'à York et vous avez la carte de la Northumby. Bède le Vénérable, qui va être un grand érudit, je vais y revenir dans un instant. Toujours dans mon envie de partager avec vous la découverte du répertoire d'Organcien, nous allons écouter une pièce du premier livre d'orgue de Pierre Dumage.
Au grand ciel.
Je continue à propos de Bède le Vénérable. J'en parle, c'est important parce que Bède le Vénérable, il va être, un de ses commentaires exégétiques va être utilisé pour l'un des vitraux de la cathédrale de Chartres. Donc à Chartres, on a des documents qui nous montrent qu'à Chartres, au XIIe siècle, on connaissait Bède le Vénérable, parce que c'est vraiment un personnage important, qu'on appelle aussi le père de l'histoire anglaise, une sorte d'encyclopédiste avant la lettre, et qui traduit des œuvres grecques et latines des premiers pères de l'Église, par exemple Pline l'Ancien, Lucrèce, Ovide, Horace. Et d'ailleurs, la langue latine va rester, au travers de tous ces temps pleins de vicissitudes, va être un des liens, véritablement, entre la culture romaine et ce qui va suivre. Ce lien est renforcé par l'usage que l'Église elle-même va faire du latin. Donc les choses se conjuguent pour maintenir cette influence latine et permettre sa renaissance à intervalles plus ou moins réguliers, puisque, encore une fois, il y a des hauts et des bas dans cette histoire. C'est une histoire de continuité, de discontinuité en même temps, mais l'histoire, c'est souvent ça. Ça se passe beaucoup dans les monastères parce que une des caractéristiques du monde à la suite de ce qu'on appelle la chute de l'Empire romain, c'est qu'on passe d'une société des villes à une société rurale. Donc les choses se passent essentiellement, pour le savoir, dans les monastères. Donc toujours le rôle prépondérant de la religion chrétienne. Et puis évidemment le rôle fondamental d'un pape comme Grégoire le Grand, qui est celui-là même qui envoya des bénédictins pour réévangéliser l'Angleterre et l'Irlande. Alors après cette période 6-7e siècle qui est plutôt favorable, il y a une sorte encore d'à-coup dans l'histoire de l'Occident, avec d'une part l'extension de l'islam jusqu'en Espagne, et puis les Lombards qui conquièrent l'Italie. Mais il se trouve qu'au 8e siècle, les barbares se convertissent de plus en plus, les Francs, qui étaient pour certains déjà des sujets romains, vont redonner un élan à la culture, en mélangeant d'ailleurs différentes influences. Et ces influences se retrouvent dans la mosaïque, dans l'iconographie. Sauf que pour l'architecture, c'est un petit peu différent, parce que finalement, il fallait se référer à la seule tradition possible, c'est-à-dire celle de Rome. Et d'ailleurs, l'origine des édifices cultuels prend sa source dans ce qu'on appelle la basilique romaine, basileus, ça veut dire le roi, hein, c'est-à-dire le bâtiment du roi, du pouvoir au fond. Et à partir du IIe siècle, milieu du IIe siècle, début IIIe siècle, toutes les villes romaines quasiment ont une basilique. Ça va être le lieu de l'administration civile et particulièrement de la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que la basilique romaine, c'est un édifice à trois nefs, avec une nef centrale plus haute qui permet que les nefs latérales, qui peuvent être soit de deux, c'est-à-dire qu'il y a trois nefs, soit cinq, c'est-à-dire une nef principale, deux nefs de chaque côté. Et la nef centrale est surélevée pour permettre de recevoir la lumière zénitale. Et c'est exactement le plan de cet édifice central de la vie romaine qui va être repris dans les premières basiliques romaines, c'est-à-dire les basiliques paléochrétiennes. On peut encore en voir d'ailleurs des exemples, notamment la basilique de Saint-Paul hors les murs à Rome. Et la cathédrale de Chartres, avec ses trois nefs, c'est-à-dire la nef principale et les bas-côtés, est la directe descendante du plan basilical, y compris d'ailleurs avec l'abside, puisque cette abside, c'est-à-dire la nef principale se terminant par une partie semi-circulaire, ça vient aussi du plan basilical. Donc, pour l'architecture, c'est vraiment le modèle romain, parce qu'il est majeur, important, et qu'il est surtout, d'une certaine façon, monumental. Et ça, c'est l'apport de l'architecture romaine. Donc, on utilise un plan romain, et parfois, on va même utiliser des éléments romains dans l'architecture chrétienne, c'est-à-dire utiliser des colonnes, par exemple à Aix-la-Chapelle, la chapelle palatine. Dans les ouvertures du plan octogonal de la chapelle palatine, on a des arcs soutenus par des colonnes qui n'ont pas véritablement de fonction de support, mais qui sont des colonnes romaines. Et pour Charlemagne, c'est vraiment la concrétisation dans l'architecture de ce retour à l'antique. Alors toujours de Pierre Dumage, 1676-1751, nous écoutons une pièce de basse de trompette.
Radio Grand Ciel.
Pour Charlemagne, ce retour à la culture antique, il est fondamental parce que c'est l'alliance du pouvoir civil franc et du pouvoir spirituel romain. Et donc, ça répond à la nécessité qu'il ressent de réaffirmer cette continuité qui assoit sa légitimité. En quelque sorte, il est le descendant direct des empereurs romains. D'ailleurs, on va parler de Saint-Empire romain germanique et ça va durer jusqu'au XIXe siècle. Alors, bien sûr que d'autres à-coups se produisent, ce sont les soubresauts de l'histoire, mais ces soubresauts sont intéressants parce que dans l'iconographie, encore une fois, ils vont aussi jouer un rôle. Mais j'y reviendrai. Et ce retour de la culture antique, qu'on voit de façon magistrale dans l'architecture, on va aussi le retrouver dans les manuscrits, avec par exemple l'apparition d'éléments dérivés de la feuille d'acanthe, de rinceaux de vigne, et ces éléments-là, on va les retrouver aussi dans les vitraux à Chartres. C'est vraiment très important, même si d'autres influences vont se greffer, y compris des influences du monde byzantin. Je donnerai quelques exemples de cette influence romaine. C'est que si vous regardez, par exemple, sur des photos facilement accessibles maintenant sur Internet, allez voir, par exemple, des photos de l'intérieur de la basilique de Paray le Monial, et vous verrez que dans la nef, il y a des pilastres, d'ailleurs on en retrouve aussi à Autun, des pilastres avec des chapiteaux corinthiens. Donc la référence au monde romain est vraiment très nette. Et pour ce qui concerne la cathédrale de Chartres, c'est pour ça que je me permets de faire ce détour par un panorama culturel, parce que l'architecture n'est pas hors de l'histoire ni hors de la culture de son époque, bien entendu. Si vous regardez la façade occidentale de la cathédrale de Chartres, avec le porche central plus grand et les deux porches latéraux, encadrés par des pilastres et puis avec une corniche au-dessus soutenue par des modillons, vous verrez, vous n'aurez pas à faire un grand effort d'imagination pour retrouver exactement le dessin d'un arc romain. C'est pour ça que c'est important de souligner ce qui a souvent été, en fonction d'une vision un peu atrophiée de l'histoire et occultée, c'est cette pérennité, ces grandes tendances qui traversent l'histoire et qui expliquent ce qui va petit à petit se passer dans le développement des arts et de la culture en Occident. Et ce qui fait que, en fait, il n'y a pas des périodes comme ça très fermées où du jour au lendemain on passerait de l'architecture ottonienne à l'architecture romane et de l'architecture romane à l'architecture gothique. Au fond, l'architecture gothique, c'est une architecture romane avec de nombreuses inventions, et c'est ça que je développerai quand je parlerai de l'architecture de la cathédrale. D'ailleurs, ces termes romans, gothiques, sont des termes récents. L'usage du mot gothique est répandu notamment par Vasari, avec une idée de discrédit. L'art des Goths, c'est l'art des barbares. Mais ça, ce sont des idées relativement récentes et qui ont fait perdre de vue cette pérennité à travers l'histoire, même si, encore une fois, ce ne sont pas des schémas continus, mais plutôt discontinus. Mais il y a cette influence majeure de l'art romain qui va projeter son ombre sur tous les siècles qui vont suivre parce qu'il est tellement important dans l'histoire de l'Occident. Donc on va évidemment retrouver toutes ces traces dans la cathédrale à Chartres, parce que la cathédrale de Fulbert, celle qui fut construite en 1020, c'est une cathédrale qui est vraiment en lien avec le plan basilical, puisque on fait une nef très large, donc avec un plafond plat en bois, ça, probablement recouvert par une charpente et une toiture, bien entendu. Pourquoi on dit probablement? Parce que la largeur de cette nef est telle qu'à l'époque, on ne peut pas la voûter. D'ailleurs, le voûtement vient progressivement. Donc, c'est forcément, comme la basilique de Saint-Paul hors les murs, une basilique à nef, mais sans voûtement, à plafond large. Et le fait de faire une cathédrale, celle de Fulbert, sur ce plan-là, avec une nef très large, puisque la question du voûtement ne se pose pas, va décider Lors d'une énième reconstruction, celle de 1194, la largeur de la nef, qui va être très large, mais que cette fois-ci, on va vouloir voûter. Et c'est donc un défi, puisque à ce moment-là, ça va être une sorte de première de voûter un édifice aussi large. On se quitte avec la musique d'André Raison, qui est mort en 1719, on n'est pas sûr de sa date de naissance, avec l'offertoire du cinquième ton.